Pourquoi êtes-vous venu cet après-midi? Allez, je vais vous demander pourquoi vous êtes venu. Pour l'adorer? Ah, heureux êtes-vous si vous êtes venu dans ce but. Seigneur, je suis venu t'adorer. Vous êtes heureux si vous pouvez vivre ça. Alors encore, pourquoi êtes-vous venu? Pour le rencontrer, oui. C'est quelque chose de dire, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur et je viens pour le rencontrer. C'est bien. Encore. Pour voir Monsieur Go? Non. Pour l'écouter, eh ouais. Quel bonheur pour un homme. C'est écrit, heureux l'homme qui m'écoute. C'est écrit? Oui, c'est écrit. Est-ce que c'est écrit, heureux l'homme qui va à l'église? Non. Mais heureux l'homme qui m'écoute. Parce qu'on peut aller dans un temple, dans une église, et ne pas écouter le Seigneur. Ce que nous avons tous besoin, c'est de connaître la pensée du Seigneur au moment où nous nous trouvons dans sa présence. Alors nous allons revoir, parce que le sujet que nous avons abordé ce matin était, d'après moi, profondément sérieux. Nous allons le réaborder d'une manière un petit peu différente pour comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu veut manifester sa présence, car c'est une vérité que le Seigneur est au milieu de nous. Vous le sentez, vous le sentez pas, il y a des gens, je sens la présence de Dieu. Ce matin, on a eu un bon culte, j'ai senti la présence de Dieu. Vous savez, que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas, à partir du moment où deux de ses enfants sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Voilà, les sentiments, les émotions, c'est valable pour ce qui est sentimental, mais pour ce qui est spirituel, c'est pas ça qui doit déterminer la bénédiction. C'est la vérité qui détermine la bénédiction. Alors nous allons voir ce sujet parce que nous voyons que Dieu veut bénir. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas, c'est que Dieu nous cache sa face. D'accord? Alors, dans Ésaïe au chapitre 50, les Hébreux ne sont pas contents, ils jeûnent parce qu'ils se disent en jeûnant, eh bien on va se mettre Dieu avec nous. Vous voyez, mais ils ne jeûnent pas dans un bon état d'esprit. Vous voyez? Ils désiraient l'approche de Dieu. On va le voir dans Ésaïe 58. Est-ce que c'est bien de jeûner? Ah oui, quelqu'un qui a envie de se priver d'un repas pour se retrouver dans la présence de Dieu, quelqu'un qui a un fardeau et qui dit ben à midi je ne mange pas, je vais me retrouver à l'heure du repas dans la présence de Dieu, c'est excellent de jeûner, quand, pas pour obtenir la bénédiction, mais parce qu'on est poussé à le faire. Dans Ésaïe 58, on le voit, voyez, l'état d'esprit dans lequel on se retrouve dans la présence de Dieu. Vous savez qu'Ésaïe 58, c'est un fameux chapitre. Hein. Et regardez, on va lire le verset 2. Tous les jours, il me cherche. Ah, ça part bien. Vous ne trouvez pas que ça part bien? Il faut me répondre. Hein. Bon. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Aïe, c'est là que ça commence à se gâter. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Bon, ça ne va pas trop, mais c'est quand même pas mal. Ils désirent l'approche de Dieu, et regardez au verset 3, on voit dans quel état d'esprit ils sont. « Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de fortifier notre âme, si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, etc., vous vous livrez à vos penchants. » Voyez ? Alors ils s'approchent de Dieu, mais ils sont en colère contre Dieu. Et je ne comprends pas, pourquoi je jeûne et tu ne me réponds pas, je prie et ça ne sert à rien. Est-ce qu'ils étaient dans un bon état d'esprit ? Eh non. Et ils commencent à se plaindre, oui, la main de l'Éternel est trop courte, etc. Et Dieu va leur répondre. Au chapitre 59, Dieu leur répond, parce que Dieu répond. Même si on est dans un mauvais état d'esprit, le Seigneur va nous aider. Il va nous dire, attention, s'il y a un problème, il n'est pas de mon côté. Il est toujours de votre côté, dit le Seigneur, c'est évident. Malheur à l'homme qui pense que s'il y a un problème, il est du côté de Dieu. Là, il y a vraiment un problème. Ésaïe 59, Dieu leur répond, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le Seigneur leur répond, il aurait pu leur tourner le dos. Non, il leur dit, voilà le problème. Le problème, c'est que vous acceptez le péché dans votre vie. Vous acceptez le crime. Alors le crime, pour nous, bien sûr, c'est les meurtres, mais la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. C'est écrit ? Eh oui. Voyez, parce que nous, on a une considération avec les termes humains que l'on utilise. Mais Dieu, il dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il n'y a pas la vie, il y a la mort. Parce qu'est-ce qu'on peut faire du mal à quelqu'un en ne l'aimant pas ? Est-ce qu'on peut faire du mal avec des paroles ? Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec des paroles ? Combien d'hommes et de femmes ont été poussés au suicide à cause du mal qu'on leur a fait avec des paroles ? Oui, celui qui n'aime pas est un meurtrier. Et dans le peuple de Dieu, ces choses-là ne doivent pas exister. Et le Seigneur sait exactement ce qu'il faut que nous fassions pour que Dieu ne nous cache pas sa face. C'est ce qu'on a partagé en partie ce matin dans le livre des Chroniques. On peut lire ce verset qui peut être un des versets les plus connus de l'Ancien Testament. De Chroniques 7,14, le roi Salomon a obtenu la royauté, il est conscient, parce qu'il est très jeune, il est conscient qu'il a besoin de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, et il va beaucoup prier, il va répandre son cœur devant Dieu, il va préparer le temple, etc. Il va tout faire. Et il va répandre son cœur devant le Seigneur, ça vaut la peine de méditer la prière du roi Salomon. Pour s'en inspirer, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 6, on voit qu'il sait très bien, mais nous aussi on le sait. Est-ce qu'on ne le sait pas ce qui attriste le Seigneur ? Est-ce qu'on ne le sait pas ce qui déplaît à Dieu ? Vous savez, je me suis occupé de deux personnes qui vivaient dans le concubinage et qui me disaient « Non, c'est pas grave, je dis « Mais vous savez très bien ce que vous avez à faire. » Et ils ont mis leur vie en règle, et ils m'ont invité au restaurant pour leur mariage et ils m'ont regardé devant tout le monde, ils ont dit « Ah, maintenant, on est en règle devant Dieu. » Ouais, pourtant, ils n'étaient pas convertis. On le sait. Ou alors vraiment, on est vraiment dans le rouge, si on ne réalise pas certaines choses. Et voyez, au 2 Chroniques 6, verset 24, il sait très bien ce qui amènera la fragilité. Voyez, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pourquoi ? Pour ne pas avoir une mauvaise armée ? Pour avoir une mauvaise armée ? Non, pour avoir péché contre toi. Verset 26, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, pourquoi ? À cause de leur péché contre toi. Voyez ? Et on voit que les problèmes vont venir à cause du péché. Certains problèmes peuvent se manifester parce qu'on obéit aussi. Mais on le sait. Quand le problème que nous traversons est une épreuve, c'est une épreuve, comme Joseph, comme Job, qui ont traversé des épreuves, ils obéissaient à Dieu. Et il faut savoir, quand on est honnête, si l'épreuve que nous traversons est le résultat du cursus normal de notre formation avec Dieu, ou si c'est le résultat de notre péché. Et au verset 29, le Seigneur s'adresse à tout le monde, et à chacun en particulier. Il dit, si un homme, voyez, si tout un peuple... Donc, c'est une affaire collective, l'Église entière est concernée, nous sommes dépendants les uns des autres, nous ne pouvons pas dire « moi je fais ce que je veux, ce qui me plaît ». Non. L'Église, c'est un corps, et on a besoin de tout le monde. Mais en même temps, c'est une responsabilité individuelle. Donc, le Seigneur parle à tout le peuple, mais il demande, il peut bénir également un individu. Je vous pose une question, imitons une Église de 50 personnes. Une église de 50 personnes, sur 50, il y en a 49 qui veulent vivre dans le péché et il y en a un qui veut vivre dans la justice. Est-ce que Dieu va bénir celui qui marche dans la justice ? Eh bien oui, vous comprenez ? Alors, bien sûr qu'il va être profondément peiné, ce brave frère, parce qu'il va être le seul à marcher dans la justice et que les autres, bien sûr, ne vont pas réaliser la défection qu'ils apportent à l'Église, le malheur qu'ils amènent sur l'Église. C'est pour ça que Dieu dit, si tout mon peuple s'humilie, mais... Si un homme, parce que si un homme s'applique à reconnaître, voyez qu'est-ce qu'il dit, si un homme fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de sa demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et il va continuer, il va dire voilà, il connaît Dieu. Il le connaît, il sait comment il faut le prier. Et il réclame sa miséricorde. Il sait que Dieu est profondément puissant, que Dieu est capable de manifester sa colère, mais que dès qu'un homme se repent, dès qu'une église se repent, Dieu est capable de manifester sa miséricorde. Et tout ça, ça va vraiment plaire au Seigneur. Et Dieu, dans la nuit, va s'adresser à Salomon. On va lire cette partie très, très importante, 2 Chroniques 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. » Voilà donc ce que Dieu nous dit cet après-midi. Dieu est le même, il n'a pas changé. Il maintient ce qu'il a dit. Si un homme se met à s'appliquer, à respecter ces quatre conditions, il verra la grâce, il verra la guérison, il verra ses péchés pardonnés et il verra surtout la bénédiction rejaillir sur les autres. Car un chrétien, il est heureux quand il est béni, mais je crois qu'il est encore plus heureux lorsqu'il est une source de bénédiction pour les autres. C'est quoi le plus important pour vous? Que Dieu vous bénisse à vous seul, ou que Dieu vous utilise pour bénir les autres? Soyez honnête, hein? Soyez honnête. Et vous ne me répondez pas. Si? C'est quoi le plus important? Les deux? C'est vous, monsieur Blanc? Ouais, il a raison. Non, mais soyez honnête. Soyez honnête jusqu'au bout. Je crois que c'est les deux. C'est pas vrai? Par exemple, heureux ceux qui procurent la paix. D'accord? Mais comment je vais apporter la paix aux autres si je ne l'ai pas? Donc, il va de soi que d'abord, j'ai besoin d'être béni pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Mais c'est vrai qu'on peut choisir la chose la plus importante, sa propre bénédiction ou la bénédiction des autres. Et heureux ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, qui disent « voilà, moi je veux être une bénédiction ». Dieu veut bénir notre nation, Dieu veut bénir votre foyer, Dieu veut bénir votre couple. Dans quel état est-il votre couple? Dans quel état est votre maison? Dans quel état est votre propre cœur? Il le dit, mais que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur dans son cœur, car Dieu connaît le cœur des hommes. Vous savez, on peut faire semblant d'aller bien, on peut faire semblant d'être en bonne forme spirituelle, avec quelques alléluia par-ci, quelques alléluia par-là, ça peut donner l'impression que ça ne va pas si mal que ça. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des hommes. Et il demande de nous appliquer à comprendre quelles sont ces quatre attitudes de cœur et d'état d'esprit pour qu'il puisse, voilà, guérir. Moi, je crois que Dieu peut guérir Toulouse. Pourtant, Toulouse est en très mauvais état, moi, je trouve, au niveau moral. Vous ne croyez pas? Notre pays est en très mauvais état. Est-ce que notre pays est malade? Ben oui, il est malade, notre pays. Il est malade de la tête aux pieds. Mais Dieu a le pouvoir de guérir les malades et même de ressusciter les morts. Et il demande une chose, que nous ayons de meilleurs politiciens dans quelques mois. C'est pas ça que Dieu demande? Non? Que nous ayons un meilleur président ou une meilleure présidente, et avec un meilleur président, le pays sera sorti d'affaire. C'est bien ça? Eh ouais. Il y en a qui le croient. Quand je vois même certains chrétiens, combien ils sont déterminés dans leurs convictions politiques, mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème spirituel. Le problème, c'est le problème du péché. Ce n'est pas le problème de la 4e ou de la 5e République. C'est un problème, c'est pas un problème de démocratie, c'est un problème plus profond qui est dans le cœur de l'homme. Alors bien sûr qu'il faut faire son devoir de citoyen, qu'il faut voter, etc. La Bible nous demande de nous soumettre aux autorités, mais si nous voulons amener la bénédiction de Dieu, ça ne passera pas par l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, ça passera par l'Église du Seigneur. Est-ce que ça vous intéresse que Dieu puisse bénir le pays, votre famille, vous-même, l'endroit où vous habitez? Parce qu'il faut commencer à respecter ces quatre conditions. Alors, comment vous les interprétez, vous, ces quatre conditions? Si mon peuple, déjà, il faut faire partie du peuple de Dieu. Est-ce que tous les chrétiens font partie du peuple de Dieu? Alors, c'est une question ambiguë, mais quand même, est-ce que tous les croyants font partie du peuple de Dieu? Est-ce que tous les gens qui vont à l'église font partie du peuple de Dieu? Font partie du peuple de Dieu tous ceux qui sont passés par la repentance et par la conversion et par la nouvelle naissance. Voilà qui est le peuple de Dieu. Quelle que soit sa dénomination, quand un homme est passé par la croix, qu'il a été convaincu de péché, qu'il a pleuré sur son péché, pleuré extérieurement ou intérieurement, quand il a réalisé que c'était son péché qui offensait Dieu, qu'il a demandé pardon et qu'il s'est repenti et qu'il s'est converti, il fait partie du peuple de Dieu. Il a pris le baptême, il s'est engagé, il a pris un engagement. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'engager. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas s'engager dans une église. Ils papillonnent d'une église à l'autre, ils n'ont aucune église fixe, ils n'ont pas pris un engagement, ils ne veulent pas servir Dieu. C'est comme ces jeunes couples qui ne veulent pas s'engager. Et ça, c'est un drame de notre société, que les gens aient peur de s'engager. Ça, c'est un problème. Le peuple de Dieu, il est composé des gens qui se sont engagés. Le baptême, est-ce que c'est un engagement? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc le peuple de Dieu est composé d'hommes et de femmes qui, quelle que soit leur dénomination, se sont engagés à avoir Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur et qui persévèrent bien sûr dans cette voie. À partir du moment où vous faites partie du peuple de Dieu, vous pouvez vous réclamer des droits du Seigneur, des devoirs, puisque Dieu est devenu votre Père. Alors il y a ces quatre conditions qui commencent par l'humilité, par l'humiliation. Quelqu'un m'a dit ce matin, Monsieur Gault, vous devriez faire une étude entière sur la véritable humilité. Et je crois que ça tient debout. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'était l'humilité. Les gens confondent parfois l'humilité avec la nièvrerie. Voyez, ils sont là. Oh non, qu'est-ce que je suis pour que Dieu m'aime? Est-ce que c'est de l'humilité, ça? Est-ce que c'est de l'humilité? Mais c'est... Moi, le pasteur qui m'a formé m'a dit que cette attitude-là, c'est même de l'orgueil inconscient. Parce qu'est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que Dieu aime tout le monde? Donc, quelqu'un qui dit « Oh, moi, Dieu ne m'aime pas », est-ce que c'est ce que Dieu pense? Vous voyez? « Ah, moi, je suis humble, vous savez. Je pense que Dieu ne m'aime pas. » Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est justement Dieu m'aime. Dieu dit qu'il m'aime. Je le crois. Je ne suis pas toujours aimable, mais je sais que Dieu m'aime. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est « Je me soumets à ce que Dieu dit ». Dieu dit qu'il est mort en Jésus-Christ sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés, qu'il a été fait malédiction en notre place pour que nous ne soyons pas maudits, je le crois. Et en me repentant, j'échappe à la malédiction. Ça, c'est de l'humilité. Je me soumets à ce que Dieu dit. Comme je le disais ce matin, ce n'est pas à moi de juger la Bible, c'est à la parole de Dieu à me juger. Beaucoup de gens se sont perdus et seront en enfer parce que l'orgueil les aura poussés à juger la Bible et à l'interpréter comme ils le voulaient. Ce n'est pas à nous de juger la Bible. Je crois que c'est à la parole de Dieu de nous juger réellement. Et c'est ça l'humilité, je me soumets à Dieu, parce que Dieu de toute façon fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu peut aider quelqu'un qui a des faiblesses, Dieu bénira quelqu'un qui a des manquements, Dieu utilisera quelqu'un malgré sa misère. Dieu a-t-il utilisé Job? Pas Job, comment il s'appelle ce pasteur là, Jonas? C'était un pasteur bizarre, non? Est-ce que Dieu l'a utilisé? Oui, Dieu l'a utilisé. Est-ce que Dieu a utilisé Abraham malgré ses deux ou trois mensonges? Oui. Est-ce que Dieu a utilisé David malgré son adultère? Il y a des choses qui n'empêchent pas Dieu de nous utiliser. Mais par contre, quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu ne peut faire qu'une chose avec un orgueilleux. Il lui résiste. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Et tant qu'il y a de l'orgueil, il n'y a pas la possibilité d'avancer. C'est pour ça que la première chose que Dieu demande, que si mon peuple s'humilie, qu'est-ce que tu as à me dire? Je l'accepte. Aïe, 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 je suis un pécheur, je le reconnais. Pourquoi nous nous sommes convertis? Parce que nous avons accepté le fait que nous étions des pécheurs. On n'a pas commencé à dire, oh oui, mais il y en a des milliers de pires que moi. Moi, je n'ai pas tué, moi, je n'ai pas été incestueux, je n'ai pas été un pédophile, je n'ai pas été un criminel. Alors écoutez, oui, que Dieu s'occupe d'eux, mais moi, je ne suis pas un pécheur. Pourquoi nous avons cédé et nous avons été touchés? Parce que nous nous sommes humiliés quand nous avons été convaincus de péché. Dieu fait grâce aux humbles. Cette humilité, ça consiste à être capable de dire, Seigneur, tu me parles, cet après-midi, tu me parles peut-être même sévèrement, mais je considère la sévérité de Dieu et je l'accepte si j'en ai besoin. L'humilité, voilà, ça consiste toujours à se mettre en dessous de la parole de Dieu, c'est-à-dire si Dieu le dit, c'est que c'est important. Si Dieu me dit que ce sont mes péchés qui me cachent sa face, eh bien il faut que j'en tienne compte. S'il y a un péché dans ma vie, eh bien on va s'y atteler et on va le régler. Dieu va-t-il vous aider? Si Dieu vous montre un péché, est-ce qu'il va vous le montrer pour vous accabler, pour vous écraser, ou est-ce qu'il va vous le montrer pour vous aider à vous en débarrasser? Bien sûr. Dieu va vous montrer quelque chose, c'est toujours pour nous aider. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Nous pouvons dire sans crainte, Dieu est mon aide ». Dans l'humilité, c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, il faudra revenir, mais c'est une loi. Le Seigneur, même quand il parlait de lui, c'était quand même le Seigneur de l'univers, c'était le Créateur Tout-Puissant, incarné, bien sûr, en Jésus. Mais il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués, car je suis doux ». Et il aurait pu dire, venez à moi, vous savez qui je suis, vous savez à qui vous avez affaire, je suis le Dieu du ciel et de la terre, dépouillé de ma gloire. Est-ce qu'il aurait pu le dire ça? Est-ce qu'il aurait pu le dire? Bien sûr. Est-ce qu'il était Dieu? Eh oui, pas dans la gloire, mais il était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Quand il a s'adressé aux pharisiens, il a dit, je suis celui qui suis. Il l'a dit avant qu'Abraham fût. Je suis. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il était Dieu. Il n'a pas dit, venez à moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Non, je suis doux et humble. Ce qui caractérise le ministère de Jésus-Christ, c'est qu'il s'est présenté en toute humilité et Dieu l'a profondément béni. Dieu fait grâce aux humbles. Si vous êtes humble, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, le Seigneur n'aura pas de mal à vous faire grâce. Si vous vous débattez avec votre orgueil, vous piétinerez longtemps et vous risquez d'en souffrir lamentablement. Oui, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Une fois qu'on s'est humilié, il y a de fortes chances qu'on prie comme il faille prier. Parce qu'on peut prier comme les païens, on peut réciter des prières en s'imaginant que, eh bien voilà, je prie, donc je suis spirituel. Je prie une heure, moi, vous vous rendez compte? Je prie une heure. Et toi, tu pries combien? Il y a des gens qui se comparent. Vous le savez qu'il y a des gens qui se comparent? Moi, je jeûne. Et vous? Vous savez qu'il y a des gens qui se comparent comme ça? Et ils s'imaginent que parce qu'ils prient, ils s'imaginent que parce qu'ils jeûnent, que parce qu'ils font ci, que parce qu'ils font là, ils sont spirituels. Bien sûr que ces choses-là doivent être vécues, elles ne peuvent pas ne pas être vécues. Un chrétien a besoin de prier, un chrétien a besoin de louer, de venir à l'église, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il fait toutes ces choses qu'il obéit à Dieu. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que l'humilité et la prière. Et il faut prier, parce que quand on prie, on se décharge de tous les fardeaux. Et vous avouerez que des fardeaux, il y en a. Vous n'en avez pas des fardeaux? On en a des fardeaux, parce qu'on connaît quelqu'un qui est malade, parce qu'on a un proche qui est en difficulté. On a des fardeaux, parce que on voit bien que notre... Aujourd'hui à Toulouse, combien de personnes vont-elles se suicider? Quand même, quand on est au courant, ça nous donne des fardeaux, oui ou non? Non? On a des fardeaux et la Bible est claire, le Jésus a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous ». Il ne faut pas s'amuser à en garder quelques-uns, vous pouvez vous décharger. La prière c'est quelque chose d'extraordinaire, ça vous permet de vous débarrasser de vos fardeaux, de faire connaître à Dieu vos besoins, ça vous permet de combattre le bon combat de la foi et on pourrait dire des multitudes de choses sur la prière. Mais voilà, ce n'est pas parce que je suis humble et que je prie que Dieu va manifester sa bénédiction. Il va m'aider, il va me faire grâce. C'est bien la grâce. Je pense que beaucoup pouvaient dire cet après-midi, je vis dans la grâce de Dieu. Oui ou non? En toute humilité, je pense que beaucoup, je vous connais en partie, beaucoup de chrétiens dans cette assemblée peuvent dire, je vis dans la grâce de Dieu. Plusieurs peuvent dire, ah moi je vis dans le repos, moi je me décharge de tous les fardeaux, j'ai une vie de prière, je vis dans le calme et la confiance. Le Seigneur entend mes prières et il m'exauce. Mais nous voulons plus que ça. Nous voulons voir la face du Seigneur briller sur nous. Et c'est pour ça que la troisième clause de ce verset est certainement la plus importante, puisqu'il y a une très très grande différence entre le fait de prier. C'est là souvent que s'arrêtent les chrétiens, d'ailleurs ils prient parce qu'ils prient, ils en ont besoin, et ça leur fait du bien, et Dieu les exauce. Mais après, il y a ce que la Bible appelle la communion avec Dieu. C'est pour ça, vous l'avez la Bible ouverte? Lisez bien, parce que c'est important de comprendre. Voyez,
si mon peuple prie, pardon, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc, c'est là le grand problème. Beaucoup de chrétiens en restent aux deux premières attitudes, ce qui est déjà une grande bénédiction, mais si nous restons à ces deux attitudes, nous connaissons la grâce et nous connaissons le repos. Mais Dieu veut plus que la grâce et le repos, Dieu veut confirmer sa parole. Dieu veut guérir, Dieu veut libérer les captifs, Dieu veut que les gens soient convaincus de péché. Il faut que dans une église, la présence de Dieu puisse se manifester. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez que la présence de Dieu se manifeste? Voyez, mardi soir, il y avait une femme, deux femmes, qui sont venues pour les premières fois et qui me dit pendant la prédication, mon cœur a été touché et je me suis mis à pleurer. Voilà. Quand l'Esprit de Dieu agit, les cœurs sont touchés. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas une église avec de belles prédications ou une belle, je sais pas, une belle ambiance spirituelle. C'est déjà pas mal. Mais Dieu veut beaucoup plus que cela. Il nous demande de comprendre ou de découvrir, puisque certains chrétiens n'ont jamais découvert ce qu'était la communion ou, le même mot, la communication avec Dieu. C'est-à-dire que la prière, je parle à Dieu, je parle, mais la communication, je parle, et après avoir parlé, je reste dans sa présence et la parole de Dieu va me toucher. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est extraordinaire de parler à Dieu. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui peut lui parler. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. C'est extraordinaire de croire que Dieu existe, qu'il est vivant, couronné de gloire et d'honneur, qu'il entend ma prière. Mais vous n'allez pas comparer cela à la bénédiction intense de chercher sa face. Chercher sa face, ça veut bien dire qu'on l'a perdu sa face. Car il me faut chercher ce dont je me suis détourné. C'est ce que Ésaïe dit lorsque les chrétiens du temps d'Ésaïe jeûnaient, priaient. Alors ça partait bien. Mais voyez, leur cœur n'était pas bon. À quoi ça sert de jeûner, voyez? À quoi ça sert de prier si tu n'y tiens pas, si tu n'y prends pas garde? Voyez? Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ouais, je prie, mais ça ne sert à rien. Le Seigneur m'a trompé. Vous savez, moi, j'oserais pas parler comme ça. Je n'oserais même pas penser comme ça, parce que ça revient au même en vérité. Chercher sa face. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la communion avec Dieu? Et ce matin, c'est ce que je disais. Je disais ce matin, c'est merveilleux la communion dans un foyer. Est-ce que c'est beau la communion dans un couple? Est-ce que c'est bien un homme qui est en communion avec sa femme? Est-ce que c'est bien? Vous n'avez pas l'air convaincu, mais moi. Est-ce que c'est beau une femme qui est en pleine communion avec son mari? Bon, j'aurais dû prendre un autre exemple, je ne sais pas toujours. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? La communion dans une famille, la communion entre un père et ses enfants, la communion fraternelle dans une église, est-ce que c'est bien? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas important? Il y a des choses extraordinaires, mais le danger et le problème, c'est que beaucoup de croyants cherche chez les autres ce que seul Dieu peut leur donner. Et c'est pour ça que beaucoup de mariages ont été brisés, parce que on cherchait dans le conjoint le bonheur, la paix. Alors, et c'est vrai qu'il y a du bonheur dans le couple, et il y a de la paix dans un couple, il doit y avoir de la paix, etc. Mais il y a des choses que seul Dieu peut nous donner. Et ça se trouve pas dans l'humilité, et ça se trouve pas dans la prière, ça se trouve dans la communication avec le Seigneur. Et c'est pour cela que le diable essaie de nous maintenir dans un certain niveau de piété, mais qui empêchera la manifestation de la puissance du Saint-Esprit de se déverser dans l'Église. Il n'y a pas de plus grande chose que la communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un ici qui aurait voyagé, qui aurait gagné beaucoup d'argent, qui aurait fait des expériences extraordinaires, pourrait dire « Oui, moi j'ai trouvé quelque chose de mieux que la communion avec le Seigneur ?» Je vous laisse la place. Votre témoignage m'intéresse. Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus beau que la communion avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de plus grande chose. Et tant que quelqu'un ne l'a pas découvert, bien sûr, il ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent « Oh, je prie, mais je vais à l'église ». Mais oui, ils en sont restés à ces deux premières étapes qui sont déjà quand même une bonne chose comparée aux pécheurs enténébrés qui vont droit vers l'enfer. Il est clair que celui qui a la grâce et le repos, il a déjà quand même une grande victoire. Mais Dieu veut plus. Dieu veut que nous vivions de la communion. Dieu veut que nous vivions dans sa présence. Après avoir prié, aimer rester dans sa présence, prendre, je ne sais pas, une petite demi-heure et dire, oh Seigneur, je viens pour être avec toi. Moi, je vous avoue, ce n'est pas pour me jeter des fleurs parce que j'ai des progrès à faire, mais moi, des fois, je vais dans mon bureau et je dis au Seigneur, je te demande rien. Je veux être avec toi. Dieu le sait que c'est vrai. Comme je peux aller voir quelqu'un, ce soir, je vais aller voir un ami, je vais passer 2 heures chez lui pour le plaisir de passer 2 heures avec lui. Ça vous est déjà arrivé, ça, d'aller voir quelqu'un pour le plaisir d'aller le voir. Voyez ? Eh bien, des fois, je rentre dans mon bureau, je dis, Seigneur, je te demande rien. Et je vous assure, je me tiens à carreau. Je ne veux que ta présence. Je veux, Seigneur, que tu saches que je viens pour le plaisir d'être seul avec toi. Et je vous assure que Dieu le voit, ça. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Ô Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà ce que Dieu veut, c'est que nous nous appliquions à trouver cette communion. Je crois que si nous découvrions de mieux en mieux cette communion, je suis persuadé que Dieu ferait beaucoup de choses dans l'Église, beaucoup de choses dans des cœurs. Il y a des chrétiens qui sont remplis d'amertume. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont pleins d'amertume. Vous les voyez un an après, ils n'ont pas avancé d'un pas. Ils sont toujours avec de l'amertume. Et pourtant, ils aiment Dieu. Je les connais. Ils ont toujours de l'amertume, du ressentiment. Ils soupçonnent le mal. Il leur manque cette dimension de la face de Dieu qui brille sur eux. Parce que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est ça que l'Église a besoin, que nous soyons resplendissants de la lumière de Christ. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, lorsque un homme cherche la face de Dieu, Dieu fait sortir de son cœur toute l'amertume, tout le ressentiment, tout cet orgueil, tout ce qui le pénalise, toute cette crainte, toutes ces angoisses, toutes ces maladies-là spirituelles qui sont dans le fond de son cœur. La communion, pour beaucoup de chrétiens, ils se trompent. J'ai remarqué, et ça m'a beaucoup étonné ça, que beaucoup de chrétiens pensent que la communion, c'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Pour eux, la communion avec Dieu, c'est le pain et le vin. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul a dit, cette coupe n'est-elle pas la communion au sang ? Alors pour eux, quand ils prennent le vin et quand ils prennent le pain, ils sont en communion avec Dieu. Alors répondez-moi, est-ce que quand on prend le vin et quand on prend le pain, on est forcément en communion avec Dieu ? Mais non, ça peut devenir de la superstition. Il y a des gens qui prennent le pain et le vin, justement, ils se font croire qu'ils sont en communion avec Dieu. On n'est pas en communion avec Dieu parce qu'on prend le pain et le vin. On est en communion avec Dieu quand sa parole nous parle. Vous entendez ? Quand la parole de Dieu vous parle, quand la parole de Dieu vous interpelle, quand vous ouvrez le Saint-Livre, parce que je crois que le Saint-Livre provoque de la sainteté dans un cœur. Oui ou non ? La saine doctrine provoque un comportement saint. Un chrétien qui lit la Bible et qui n'est pas touché par la sainteté des Écritures lit la Bible avec la tête. Mais un chrétien qui lit la Bible avec le cœur, il est conscient que la Bible va le sanctifier. Est-ce qu'on est sanctifié par la parole ? Alors comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui lisent la Bible et ils restent dans le péché ? Parce qu'ils la lisent avec la tête. Mais quand vous lisez la parole avec le cœur, la parole a le pouvoir de vous sanctifier. Écoutez, c'est pas moi qui le demande. C'est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et il est certain que c'est ça, chercher la face du Seigneur. Alors, je vous pose la question que j'ai posée ce matin à l'Assemblée. Quelle est la communion que vous avez avec Dieu ? Est-ce que vous êtes satisfait de la communion que vous avez avec le Seigneur ? Est-ce que vous pensez que votre communion avec Dieu pourrait s'améliorer ? Ou est-ce que quelqu'un vous dit, ah non, moi je ne peux pas être plus haut dans la communion. Est-ce que vous pensez que votre communion, notre communion, pourrait s'améliorer? Est-ce que vous soupireriez après cela? Est-ce que, oh Seigneur, ce matin, cet après-midi, tu me parles. Oui, je vais m'humilier davantage, je vais améliorer ma façon d'être humble devant toi. Je vais continuer à te prier parce que c'est utile pour moi, c'est utile pour les autres, mais je voudrais apprendre à développer cette communion. Je voudrais que ma communion avec toi, Seigneur, soit mon bien le plus précieux. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Est-ce que Dieu vous a donné beaucoup de choses depuis que vous êtes converti ? Est-ce que vous pouvez dire, ouais, Dieu m'a comblé ? Peut-être que bientôt vous allez avoir un enfant. Est-ce que c'est une bénédiction ? Au hasard, Aurélie, est-ce que c'est une bénédiction ? Est-ce que c'est une bénédiction d'avoir un enfant ?
Eh oui, c'est une grâce. Dieu va vous donner un mari, prune. Dieu va vous donner un mari. Et Dieu peut vous donner beaucoup de choses, mais Dieu peut vous reprendre aussi certaines choses. Mais il y a une chose que Dieu ne vous reprendra jamais, c'est sa communion avec lui. Et est-ce que vous pouvez, alors si vous ne pouvez pas le dire, ne vous traumatisez pas, ne vous culpabilisez pas, soyez interpellés. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je veux que mon bien le plus précieux, ce soit ma communion avec toi. Pourquoi des chrétiens ont rétrogradé? On n'a pas les jugés, on ne sait pas tout en plus. Mais pourquoi tant de croyants ont rétrogradé? C'est parce qu'ils n'ont jamais découvert ce qu'était la communion avec Dieu. Parce que moi, je ne vois pas ce qui pourrait remplacer la communion avec le Seigneur. Il m'a été donné, il y a quelques années de ça, on m'a offert deux nuits avec mon épouse et ma famille dans des chalets sur pilotis, vous savez, vous avez les poissons qui passent dessous, là, sur les glaces. Vraiment des trucs de fou, quoi. Et puis le soir, je regardais les petits poissons passer. Et je dis, Seigneur, tu vois, merci, merci, merci. Mais franchement, c'est quand même un peu petit à côté de la grâce de Dieu dans ma vie. Et je voudrais vous convaincre qu'il n'y a rien sur la terre qui pourra remplacer l'irremplaçable. Il n'y a rien. Et ça se présente sur cette affaire-là, chercher ma face. Et je l'ai compris, cette affaire, avec tous les chrétiens qui me disent, mais oui, je prie, monsieur Gros, je le sais, vous ne demandez plus, je prie. Mais voilà, vous voyez, quand on part de la prière dans cet état d'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On devrait tous être bouleversés par le temps de qualité que l'on va passer devant la face de Dieu. Ne perdez jamais votre communion avec Dieu. Et si vous n'avez jamais été en communion avec Dieu, lisez la Bible avec votre cœur. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Nous sommes des hommes et des femmes avec un cœur. Et nous avons besoin de tendresse, nous avons besoin de bonté, nous avons besoin de compassion. C'est vrai ou c'est pareil? Par contre, on n'a pas besoin de tendresse? Il y a quelqu'un qui peut dire, non, moi je suis un dur, vous savez, moi je n'ai pas besoin. Il y en a qui le pensent comme ça. Quelle maladresse. On a besoin de bénédiction. On a besoin de bonté. On a besoin d'être consolé. Et ce n'est pas dans la prière qu'on est consolé. C'est dans la communion avec Dieu qu'on est consolé. C'est dans la faveur de Dieu. Oui, c'est formidable l'amour d'une femme, l'amour d'un mari, l'amour des enfants. Mais ça ne pourra pas remplacer la communion avec le Seigneur. Et vous savez, lorsqu'une église commence à s'appliquer, à chercher la face de Dieu, je peux vous dire qu'après, quand on chante, quand on loue, quand on adore, Dieu est béni. Et c'est ça que nous voulons, que la bénédiction de Dieu soit sur nos réunions. Vous avez envie que des pécheurs soient touchés? Mardi, il va venir des nouveaux, des gens qui découvrent l'Évangile. Ce matin, il y avait une dame qui est venue pour la première fois. Elle est venue me dire, oh monsieur le pasteur, j'ai pleuré tout le culte. Je n'avais pas compris ce qu'était la grâce de Dieu. Pour moi, les églises, c'était la religion. Mais oui, première fois qu'elle est venue. Et j'ai compris la grâce de Dieu en pleurant. L'église, c'est ça. C'est un endroit où la grâce de Dieu se manifeste. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui s'humilient. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui prient. Mais vraiment, béni soit Dieu plusieurs fois pour ceux qui cherchent sa face. Car quand vous cherchez sa face, Dieu vous éclaire. Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées, dit le psalmiste. Quand on prie, Dieu ne nous montre pas forcément le péché. Il y a des chrétiens, ils aiment Dieu, mais ils vivent dans le péché. Alors vous dites, mais comment ça se fait? Eh bien parce qu'ils ne sont pas éclairés. Tel chrétien va regarder des trucs porno à la télé, il ne va pas se sentir coupable. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'est pas éclairé. Il ne voit pas le mal. Mais un chrétien qui cherche la communion avec Dieu, laissez-moi vous dire qu'il aura vite fait de voir quel est son péché. Moi, en tant que pasteur, c'est quelque chose qui m'étonnait de voir la sensibilité de certains chrétiens qui, dès qu'ils faisaient un pas de travers, ils se culpabilisaient. Dès qu'ils avaient presque vu une publicité un petit peu osée, voilà, ça les traumatisait. Et puis certains qui, monsieur Gaulle, il faut être moderne. Et moi, j'ai dit, tiens, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de ceux qui s'arrêtent à la prière et de ceux qui poursuivent dans la communion avec Dieu. Ceux qui sont dans la communion avec Dieu, c'est écrit. Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Et un chrétien qui vit à la fois dans le péché, c'est un chrétien superficiel, qui s'arrête à l'essentiel parce qu'il est beaucoup intéressé par la bénédiction, mais il n'a pas ce cœur vrai, qui aime la vérité, qui a l'amour de la vérité, parce qu'il ne veut pas être un obstacle dans l'Église. Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez que par votre comportement, vous êtes un interdit dans l'Église? Qu'est-ce que vous diriez? Bon, pas tous ensemble. Qu'est-ce que vous diriez, très sérieusement, si le Seigneur vous disait par un péché dans votre vie, vous êtes un obstacle? Est-ce que ça vous toucherait? Eh bien oui, j'espère. Et je crois que c'est ça l'honnêteté. Seigneur, dans l'église où tu m'as placé, je ne veux pas être un obstacle. Imaginez quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, tout ça, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Imaginez une église où sur 50 membres, il y en aurait 40 qui soient pleins d'amertume. Qu'est-ce que ça va donner dans l'église? Ça va donner que l'église va être amère. Oui, j'ai étudié, vous savez. Hein? Mais c'est ça que ça va donner. Si dans une église, 90% des gens sont dans la paix, ben il va y avoir la paix. Et ainsi de suite. Et je devrais me dire, Seigneur, mais éclaire-moi, afin que rien ne vienne faire obstacle à mes prières. Seigneur, tu m'as placé dans une église, quelle grâce. Vous savez qu'il y a des chrétiens dans des villes qui sont tout seuls, ils n'ont pas d'église. Nous, Dieu nous a placés dans une église, Seigneur, que dans cette église, je ne sois pas un obstacle. Montre-moi si dans mon comportement, c'est surtout à la maison, que je dois savoir si ce que je suis en train de faire ou au travail. Est-ce que je vis dans le mensonge? Est-ce que je vis dans l'avarice? Est-ce que je vis avec des dettes? Ce matin, j'ai fait allusion aux dettes. Il y a des chrétiens qui doivent de l'argent à d'autres chrétiens, mais comme c'est des chrétiens, oh, c'est des chrétiens, et puis il a du pognon, hein. S'il n'est pas à 2000 euros près, le gars, il est chrétien, il est brave. Hein, bon, c'est comme ça que ça marche? Est-ce que la Bible parle des dettes? Est-ce que la Bible en parle? Eh oui. Et voyez, cette légèreté, quelqu'un qui cherche la face de Dieu, oh, il va se rappeler là. Et puis le Saint-Esprit, dans sa délicatesse, dans sa sensibilité, va mettre le doigt sur tel péché. Voyez, il n'y a que lui qui peut faire ça avec délicatesse. Oh mon Dieu, merci. Comment vous allez réagir si Dieu vous montre un péché? Est-ce que ça va vous contrarier? Est-ce que ça va vous agacer? Si Dieu vous montre telle chose, est-ce que ça va vous agacer? Ou est-ce que vous allez dire au Seigneur, je te remercie de m'éclairer? Comment allez-vous réagir? Mais Dieu, vous le savez déjà, ça vous le savez. Comment vous réagissez lorsque Dieu vous montre quelque chose? Peut-être que vous êtes dans la grâce et que vous dites, oh Seigneur, si tu as quelque chose à me montrer, montre-le. Si, en principe, quand on commence, oui, mais lui fait pareil. Je vous rappelle que notre modèle, ce ne sont pas les autres. Notre modèle, c'est le Seigneur. Et que si vous prenez pour excuse les autres, le modèle des autres, ça ne vous avancerait pas. Donc, quelqu'un qui cherche la face de Dieu, il va se détourner de ses mauvaises voies. Et lorsque ces quatre étapes sont scrupuleusement respectées, et lorsque Dieu va voir notre soif, notre désir et notre détermination, laissez-moi vous dire qu'il va vous encourager. Et vous allez entendre demain matin dans la prière, persévère, 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 continue, et je te fortifierai, et je te bénirai. Mais vous connaissez la Bible. Si vous avez lu la Bible, vous voyez combien Dieu est derrière nous pour nous porter, pour nous pousser, pour nous aider, pour nous donner du courage, pour nous fortifier. Dès qu'il voit quelqu'un faire un pas, il fait les autres. Il fait les sans autres pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dès que, si vous connaissez Dieu, vous le savez. Dès qu'on fait un pas, il en fait une vingtaine d'autres pour nous porter et pour nous bénir. Si vous voulez voir la face de Dieu, il faut persévérer. Il faut avoir l'intelligence d'organiser son emploi du temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est savoir bien organiser son emploi du temps. Oui, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai. Et moi, je crois qu'on n'est pas loin de cela. Si nous nous appliquons, si nous faisons ce que Dieu nous demande. Ça, c'est entre vous et Dieu. C'est pas à moi de vous dire, fais ci, fais ça, donne ci, donne là, serre comme ça, faites ci dans l'église, vous faites ça. Écoutez, ça, c'est pas un homme. Hein. Mais ça rejoint ce que Jésus a dit quand il a répondu au diable après la tentation dans le désert. Quand le diable le sollicitait pour qu'il l'adore, le Seigneur a dit, tu adoreras Dieu et tu le serviras lui seul. Chercher la face de Dieu, ça va vous connecter à l'adoration. Ce n'est pas possible autrement. Quelqu'un qui cherche la face de Dieu, il n'est pas dans la prière. Il a dépassé le stade de la prière et il se retrouve dans l'adoration. Il a besoin d'adorer Dieu. Il a besoin de remercier Dieu. Est-ce que vous avez besoin de remercier Dieu? Est-ce que vous le faites plusieurs fois par jour? C'est plus fort que vous. Vous avez besoin. Les gens qui louent Dieu dans l'église, peut-être que vous n'avez pas pris cette habitude de le faire, mais apprenez à le faire. C'est un besoin à un moment donné. C'est vrai ou c'est pas vrai? On vous force à la rentrée, personne ne vous a forcé. C'est un besoin. C'est de l'abondance du cœur que ça sort. Et lorsque vous découvrirez cette troisième étape, vous découvrirez vraiment la bénédiction de voir la lumière de Dieu vous éclairer. La parole de Dieu va devenir toute nouvelle. Elle vous allait dire, mais c'est vrai. Comme je le disais ce matin, c'est une terre sainte. La parole de Dieu, est-ce qu'on peut la comparer à une terre sainte? Oui ou non? Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une église avec beaucoup de respect. Comme je le dis souvent, on n'entre pas là, décontracté, avec le chewing-gum, et les gens y bavardent pendant que le pasteur y prêche. Vous croyez que c'est comme ça que Dieu va nous bénir? Moi, je vais dans des églises, je suis scandalisé. C'est rare que je vais dans des églises où je m'assois au fond. C'est rare, c'est sûr. Mais des fois, j'appréhende presque d'aller dans une église et de voir comment les gens se comportent devant la sainteté de la parole. Ma parole est sainte, dit le Seigneur. Et quand on entre dans un lieu de culte, on entre dans un endroit où on doit respecter sa parole. Et tout ça contribue à améliorer l'humilité, à améliorer la prière, à améliorer la façon dont on cherche sa face, à faciliter la lumière et l'éclairage du Saint-Esprit sur notre vie. Tout ça, ça facilite la démarche. Et tout ce qui est fait dans ce sens-là améliore la lumière, améliore la connaissance, la grâce, la bonté de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu peut nous visiter et manifester véritablement sa bonté. Est-ce que ça ne serait pas ça le vrai réveil des gens qui cherchent la face de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi je vous dis que je n'ai pas de programme? Parce qu'il n'y a pas de programme à voir. Le programme qu'il faut que nous ayons, c'est celui de faire que sa maison soit une maison de prière, une église où on cherche sa face. Et vous verrez combien Dieu guérira et Dieu pardonnera. Et maintenant, alors que nous allons prendre le pain et le vin, est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un? Quelqu'un qui dit, mais c'est vrai, j'avais besoin d'entendre ça. Moi, j'aurais aimé peut-être une prédication sur l'amour de Dieu, ça m'aurait bien convenu. Mais non, j'avais besoin de cette sévérité. Il faut que je me retrouve dans la présence de Dieu, non pas pour lui parler et lui rabâcher mes prières intéressées. Non, il faut que je me retrouve dans sa présence pour voir sa face. Et le Seigneur le verra. Parce que vous savez, on peut faire le cinéma aux hommes, mais on ne fait pas la comédie avec Dieu. Et Dieu qui verra votre détermination, votre soif, vous exaucera, vous guérira et vous pardonnera. Fermons les yeux quelques instants. Dieu vous a peut-être parlé. Où en êtes-vous? À quelle étape de ce verset en êtes-vous? Avez-vous déjà commencé à vous humilier? Où êtes-vous dans la contestation et dans l'orgueil? Avez-vous dépassé ce stade pour vous projeter dans une vie de prière? Où le repos de Dieu vous est accordé parce que vous vous êtes déchargé de tous vos fardeaux? Êtes-vous passé à ce merveilleux stade de la communion avec Dieu? Où par la lumière, votre visage est éclairé? Où en êtes-vous? Cet après-midi, soyez vrai. Les chrétiens, dans quelques minutes, vont prendre le pain et le vin. Mais cette communion avec Dieu, l'avez-vous? La voulez-vous? Voulez-vous la développer, l'améliorer? Voulez-vous voir la grâce de Dieu se manifester? Voulons-nous voir la guérison de notre nation? Oui, ce n'est pas par la politique. Je suis désolé pour ceux qui font la politique. Peut-être il faut continuer à en faire, ce n'est pas incompatible. Mais ce n'est pas la politique qui amènera la délivrance, la guérison. C'est la puissance du Saint-Esprit. Qui, cet après-midi, dit « Oui, je veux que mon bien le plus précieux, ce soit la communion avec Jésus. » Je m'adresse aux jeunes qui sont souvent fourrés devant leur ordi. Pour vous, certainement, le message est important. Combien peuvent dire pour moi le temps le plus important, c'est devant mon ordi. Soyez délivrés. Soyez délivrés de ces drogues, de cette drogue dont vous ne pouvez plus vous passer. Soyez guéris et découvrez ce qu'est la communion. Voilà ce que Dieu veut dans l'Église aujourd'hui. Non pas des séminaires et des chantiers de réforme, et ci et là. Dieu veut que l'Église découvre la face du Très-Haut. Oui, comme l'a dit le psalmiste, fais briller ta face et nous serons sauvés. Dans le psaume 80, vous pourrez le méditer, à trois reprises, Asaph demande à Dieu de pardonner le peuple. Il dit, mais fais briller ta face et nous serons sauvés. Seigneur, c'est notre prière, fais briller ta face. Que tous les croyants qui aujourd'hui se sont contentés juste de la prière découvrent l'importance de chercher ta face. Et que ce moment où nous prenons le pain et le vin soit pour les chrétiens l'occasion d'être guéris, d'être libérés par ta présence. Tu vois également tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, tous ceux qui n'ont pas pris le baptême par immersion, qui ne se sont pas repentis, qui vont rester assis pendant ce temps de Sainte-Cène. Aide-les, Seigneur, aide-les, afin qu'ils obtiennent ta grâce, ton pardon, ta vie, et qu'un travail commence dans leur âme. Oui, tu es l'Éternel qui guérit, nous en sommes convaincus. Tu es le Dieu qui pardonne, tes bras sont grands ouverts cet après-midi pour manifester ta miséricorde sur ton peuple. Que ton nom soit béni.